l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'Aim, l'émission, le magazine de Radio Évasion avec un festival qu'on aime bien sur nos ondes. Est-ce que c'est parce qu'il joue les furtifs, les discrets, à pas feutrer? Un festival les yeux fermés ou presque, pas toujours. Les oreilles ouvertes en tout cas, c'est sûr. Pourtant, il a de la bouteille puisqu'il est né en 2006. Il s'annonçait alors comme un rendez-vous de musique mécanique, chansons étranges et rock'n'roll sauvage. J'ai bien l'impression que ça n'a pas tellement changé. Ce qui a changé, ce sont les dates de festival printanier, invisible et devenu automnal. Alors si vous aimez vous faire surprendre, si vous aimez les savants fous du son qui ricanent dans leur laboratoire, c'est là qu'il faut être ces prochains jours entre l'Espace Vauban, le Centre d'Art Contemporain Passerelle et la Carène à Brest à partir de demain. Bonjour Arnaud Le Guéflec.
Bonjour.
Donc c'est vous qui avez créé ce festival invisible ?
Avec Maëlle Le Guéflec, ma femme, au départ. On est toute une équipe.
Oui, vous êtes nombreux. Alors comment est-ce que déjà le festival passe le cap de cette crise sanitaire qui n'en finit pas ?
Ben, comme tout le monde, il fait avec, mais on ne sait pas trop toujours comment on sent et comment on vit les choses. Mais en tout cas, on a eu la désagréable nouvelle de devoir l'annuler l'année dernière, parce que la situation sanitaire était telle qu'on la connaît. Et donc là, c'est un peu la renaissance et on est chaud, on est bouillant, n'est-ce pas ?
Non. Et comment ça s'est passé ? Vous avez dû reprendre quand même des artistes que vous aviez prévus l'an dernier ? Vous avez fait exactement la même prog, pas tout à fait
Bah, on n'a rien dû au sens du devoir faire ceci ou cela, mais on a quand même privilégié, si possible, l'idée de reconduire en fait l'affiche de l'année dernière au maximum, par fidélité pour les artistes d'abord, puis parce qu'on voulait les voir sur scène d'autre part. Bon, après, il y en a certains qui ne pouvaient pas venir pour des questions de planning, donc c'est une affiche remaniée quand même, mais globalement qui reprend essentiellement la programmation de l'année dernière.
Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit, eux, les artistes, quand vous les avez recontactés ou...
Bah, ils étaient plutôt contents et parfois surpris d'être resollicités. Nous, on est un peu dans une logique de fidélité aussi avec les artistes, et souvent, il y a des artistes qui reviennent d'une année sur l'autre, souvent parce qu'ils sont hyper créatifs et qu'ils ont donc plusieurs projets et que ça légitime à chaque fois une réinvitation. Mais non, je pense que ils étaient à la fois contents et puis le sentiment que ben, on ne s'avoue pas vaincu finalement, puisqu'on insiste.
Mais oui, mais il paraît qu'il y a presque trop d'artistes et pas assez de programmation ou de festival ou de salle. Et ça, c'est quelque chose que vous avez ressenti ? Est-ce que vous avez une frustration de ne pas pouvoir programmer plus ? Non, enfin...
Bah, on essaye toujours de lutter contre la frustration, hein. C'est une bonne c'est une bonne posture dans la vie, donc oui, il y a toujours beaucoup d'artistes. Après, quand on arrête notre programmation, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Déjà, faut qu'on soit un peu dans une unanimité tous les uns par rapport aux autres, donc il y a vraiment des discussions entre nous. Donc déjà, ça crée un premier tri. Et puis ensuite, il faut que les artistes soient disponibles pour venir jusqu'au bout de cette péninsule extrême occidentale où nous vivons. Donc ça, c'est encore autre chose, parce qu'évidemment, une tournée qui passe par Brest, c'est toujours un peu compliqué à monter. Mais on arrive quand même à provoquer ce genre d'événement. Et puis, il faut aussi que ce soit raccord financièrement. Enfin bref, il y a pas mal de facteurs. Et à la fin, in fine, on a une programmation d'arrêter.
Voilà. Alors, sur la philosophie que vous allez nous réexpliquer, parce que je ne sais pas si les gens connaissent le Festival Invisible, qu'est-ce que c'est un artiste invisible ?
Le festival, c'est toujours intéressé dès le départ aux skieurs hors piste, quoi, aux artistes en marge, ou aux parcours singuliers, aux gens qui souvent ne suivent pas les artères principales de la diffusion commerciale de la musique, on va dire. Donc on est un festival de rock à la base, on est tous des enfants du rock, et à partir de cette plateforme de départ, on s'est toujours intéressé à autre chose, à essayer de voir, de s'intéresser au rock quand il est dans les marges, ou quand il sort un peu des sentiers battus, quoi. Voilà, et donc on a toujours cherché les artistes cachés, ceux qui sont cachés parce qu'ils sont... Il y a des légendes au Festival Invisible tous les ans, il y en a au moins une ou deux qui font partie de la légende du rock, qu'on se demande s'ils existent vraiment, si peut-être un jour on pourrait les voir ou pas.
Ça serait qui alors cette année ?
Ben, par exemple, certaines ratios. Qui joue à la Carène le samedi et qui est un des groupes phares de la scène de Manchester de la fin des années 70, début des années 80. C'était des contemporains de Joy Division, signés sur le même label, le label Factory. Donc c'est vraiment une légende pour certaines personnes, quoi. Vraiment, c'est un groupe culte, cultissime.
Jamais dissous ?
Jamais dissous. Bon, il y a eu des remaniements ouais. en interne, mais on s'intéresse aussi beaucoup à cette idée que des fois, les groupes peuvent durer sans pour autant amoindrir leur créativité, quoi. C'est le cas de certaines ratios qui est toujours un groupe intense sur scène et créatif, quoi. Voilà, donc ça nous intéresse beaucoup, ça, cette idée de que tout n'est pas qu'une affaire de coût commercial ou de saison vite refermée, mais que les choses peuvent s'inscrire dans la durée.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est parce qu'ils sont créatifs qu'ils ne seront pas plus connus, qu'ils ne sortiront pas forcément du cercle justement des enfants du rock, comme vous dites ou,
Je ne sais pas. Est-ce que
vous avez une explication, justement ?
On n'a pas trop d'explications. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens créatifs, quoi. Donc après, ils peuvent être plus ou moins connus, avoir plus ou moins bénéficié des faveurs médiatiques, ou pas. Et en fait, c'est pas ça notre critère, quoi. Notre critère, c'est la fascination qu'on peut ressentir par rapport à certains artistes, qu'ils soient donc légendaires, obscurs, underground ou tellement originaux que parfois ils n'ont jamais pu mettre le pied dans la chaussure du marketing, quoi. Voilà.
Ouais, c'est en fait grâce au web, bon, en fait maintenant cette créativité elle a complètement explosé, enfin en tout cas l'apparition, enfin, comment vous faites pour les repérer quand même, enfin pour ne pas vous noyer dans l'abondance de création. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a une abondance de création.
Il y a une abondance de création, il y a une abondance d'accès aux informations. Là. C'est vraiment terrifiant, quoi.
Oui.
Vertigineux. Mais après, on est plusieurs à programmer. Il y a notamment deux programmateurs en chef, maintenant, qui sont un peu des têtes chercheuses, qui sont tout le temps... David et Vince, s'il s'appelle. Ils sont tout le temps... ils ne loupent rien de ce qui sort, quoi. Donc, ils sont tout le temps en éveil, en ébullition. Donc c'est vrai qu'ils sont pour beaucoup dans la programmation du festival. Et puis d'une manière générale, toutes les personnes qui font partie de l'organisation, on a tous le même problème. C'est-à-dire que dès qu'on se lève le matin, on cherche à découvrir de la musique qu'on ne connaît pas. Donc c'est forcément, au bout d'un moment, bon, plutôt que d'avoir peur de cette prolifération d'informations, on y va et puis on voit ce qu'on trouve.
Mmh, vous allez à la pêche. Alors justement, ça donne des résultats parfois très étonnants. Enfin là, je voulais juste faire écouter un peu aux auditrices et aux auditeurs un exemple, Will Guthrie et l'ensemble Nishnash, et puis vous nous expliquerez qui ils sont après. Alors, j'ai mal prononcé, c'est l'ensemble Nistna d'ailleurs, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Et je pense qu'il faut que les gens aillent voir la vidéo parce que c'est vraiment un orchestre de percussion.
Un orchestre de percussion, oui, de percussion métallique. C'est inspiré des gamelans indonésiens, ces grands orchestres traditionnels indonésiens qui font une musique hypnotique, une musique de trance. Et Will Guthrie, c'est un batteur percussionniste d'origine australienne, mais qui maintenant vit à Nantes depuis quelques années.
Ah, c'est pour ça que c'est marqué australo-breton.
Australo-breton. on l'a déjà eu au festival une fois ou deux, je ne me souviens plus exactement combien de fois, mais enfin, c'est quelqu'un dont on suit le travail. Et c'est vraiment un aventurier de la batterie, un aventurier de la percussion. Ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il s'aventure dans le monde du jazz, mais aussi dans le monde du rock. Il n'y a pas trop de limites ni de frontières. Et là, en l'occurrence, il s'est aventuré sur les terres du gamelan. Et il a créé son gamelan. On n'est pas dans la musique traditionnelle indonésienne, mais on est dans une musique créative, moderne, mais inspirée par ça. Donc il y a tout un orchestre de percussionnistes qui sera présent à la passerelle le jeudi soir pour interpréter cette composition de Will Guthrie.
Il n'y aura que eux d'ailleurs cette soirée-là, parce qu'en fait vous faites des soirées thématiques un peu, c'est ça, il faut expliquer aussi ouais. Comment se déroule le festival. Quoi.
Bah, cette soirée-là à Passerelle, c'est une soirée en partenariat avec Plage Magnétique, qui est l'association qui s'occupe un peu du jazz au sens large à Brest. Et on a depuis longtemps travaillé avec eux, au moins sur une soirée, parce que nous on vient du rock, eux ils viennent du jazz, mais à force de curiosité, on finit par se rencontrer sur les mêmes esthétiques parfois. Et donc, cette soirée à Passerelle, au Centre d'Art Contemporain Passerelle, c'est une soirée Plage Magnétique Festival Invisible, ou peut-être la soirée la plus expérimentale du festival. Et en l'occurrence, il y aura un deuxième artiste qui s'appelle Guilhem Hall, qui lui est une figure de l'underground brestois et un musicien plutôt qui crée des nappes sonores plutôt proches de la musique industrielle ou du punk, du do-it-yourself. Et donc on est sur une soirée un peu qui mélange ces deux esthétiques-là.
Donc ça, c'est la soirée Gaston, c'est ça, non?
Je ne sais plus.
Je ne sais plus, ouais, parce qu'elles ont des noms en plus,
c'est ça. On donne des noms à nos soirées. Ouais, voilà. Buster Café, on a...
Qu'est-ce qu'il y a comme type de soirée, alors? Allez-y.
En fait, tout ça, c'est un peu pour beauté en touche, hein, de donner des noms. À une époque, on avait, par exemple, une soirée à plumes, à poils et une autre à écailles, vous voyez. Donc c'est...
Très bien.
En fait, c'est parce qu'on aime bien rire un peu. Et en l'occurrence, cette année, c'est des soirées en on. Alors, il y a une soirée Gaston, une soirée Boxon, une soirée, etc. Mais concrètement, les deux grandes soirées à la Carène, le vendredi et le samedi, c'est des soirées très rock en général, bon, au sens large. Et puis celle du jeudi à Passerelle, c'est plutôt une soirée expérimentale. Bon, en gros, pour résumer, quoi. Mm. Le mercredi soir, il y a une soirée dégustation où on mélange le vin.
Ah oui, piston. J'ai bien retenu piston. Celle-là.
Ouais, c'est une soirée où on mélange le vin et la musique. Depuis longtemps, Laurent Moilic, qui est un caviste, un raconteur d'histoire autour du vin à Brest, et qui est aussi un mélomane, propose une dégustation où on discute de vin tout en écoutant de la musique. Cette année, en l'occurrence, c'est avec le saxophoniste de l'ensemble Sillage, Stéphane Sordet, qu'il va travailler. Et on s'intéresse aussi aux connexions entre le rock et la musique contemporaine, par exemple. Donc ce sera un petit peu ça le point d'ancrage de cette soirée-là, le mercredi, à Passerelle aussi. Et puis le mardi soir, il y a une soirée qu'on organise en partenariat avec le Quartz. Tous les ans, il y a une soirée. Donc c'est une envie conjointe d'Invisible et puis aussi de Anne Miour, la programmatrice du Quartz.
Et en l'occurrence, mais c'est pas au Quartz.
Cette année, parce que le Quartz, c'est hors les murs. Vous savez, ils sont en travaux, donc ça se passe au Vauban. Et là, c'est un chanteur français qui s'appelle Rouge Gorge, qui pratique une chanson minimaliste exceptionnelle. Et voilà, qui est de la vie générale pour tous ceux qui l'ont vu sur scène, c'est extraordinaire.
Donc, ah oui, même sur scène. Enfin, c'est vrai que, alors, nous, sa musique, on l'aime beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'on l'a même carrément, on lui a emprunté un titre pour faire un des génériques d'une autre de nos émissions, parce que c'est vrai que c'est formidable. Et sur scène, on se demande ce que ça donne. Qu'est-ce que ça. Vous pouvez nous décrire un peu
C'est assez mystérieux au départ, parce que c'est un chanteur minimaliste, effectivement, qui chante en français. Il n'y a pas de grand orchestre, d'origine indonésienne pour l'accompagner. Mais je crois qu'il joue beaucoup sur le fil de l'émotion et je crois que ça bouleverse en fait. Il est parfaitement authentique et ça c'est dans tout dans l'émotion, dans une grande finesse et ça fait mouche. Et c'est vrai que j'ai été très surpris de voir autant de retours de gens qui me disaient j'ai vu Rouge Gorge et vraiment il y avait un avant et un après.
Ah ouais, mais c'est il y a un peu de transe quand même aussi dans sa musique. Enfin, c'est ça, hein, ça envoûte en fait.
Ça envoûte.
Et il nous gouroute. Et puis, donc le Vauban, c'est bien. C'est là hein, qui sera le Vauban.
C'est là.
Ouais, donc c'est bien approprié aussi pour créer une intimité quand même.
Je pense que c'est très approprié. Puis il y aura aussi une plasticienne qui s'appelle Anne Garel qui va exposer une toile hypnotique. Alors Anne Garel, c'est une dessinatrice, une peintre qui est connectée sur une sorte de sismographe de l'inconscient. Donc elle va peindre comme si elle était un petit peu à l'affût des tressaillements et des bouleversements de l'inconscient. C'est une toile complètement hypnotique, psychomagique, qui va être exposée avec une lumière particulière. Donc on va être dans une soirée assez envoûtante, en effet.
Mais elle aura été peinte avant. Elle ne sera pas peinte pendant le concert.
Elle a été peinte avant. Pour le concert, quoi.
Ouais, c'est ça. Voilà. Parce que vous seriez capable de faire ça aussi. Puisque vous faites, en fait, on a parlé des artistes évidemment essentiellement sonores, mais il y a des artistes visuels aussi dans le Festival Invisible.
Bah oui, parce que souvent, il y a des artistes qui ne sont pas simplement musiciens. Il y a beaucoup de gens qui finalement font un peu de tout. Et ça nous intéresse beaucoup, les artistes. Alors on dit maintenant transdisciplinaire, c'est un mot un peu sérieux. Mais enfin, en gros, quand on a l'occasion de faire venir un artiste qui va à la fois avoir une dimension plastique et musicale, on essaie de mettre les deux en valeur, quoi.
D'ailleurs, il y a quand même une performance, c'est une sorte de défilé, c'est ça que vous appelez d'ailleurs les bénévoles à se manifester. Enfin, je ne sais pas si vous avez votre compte de bénévoles là, mais...
C'est en cours, je n'ai pas eu le dernier pointage. En fait, c'est une artiste plasticienne qui s'appelle Odette Picot, qui est basée à Saint-Cadou, figurez-vous.
Ah, c'est chez nous, vraiment.
Chez vous, ouais. Et qui, avec qui on travaille depuis très longtemps sur le festival, et qui fabrique une sorte de vaudou personnel en récupérant des choses dans les greniers, en récupérant plein d'objets. Elle tricote, elle fabrique des poupées, des masques, etc. Là, en l'occurrence, elle a fait un atelier avec des enfants l'année dernière, enfin l'année d'avant. Le
super,
Covid, super. On ne sait plus trop quelle année on est. Et ces masques n'ont pas encore été montrés. Donc, en fait, on s'est imaginé une déambulation entre le disquaire Bad Seeds, qui est basé Place Guérin à Brest, et la salle de la passerelle. Il se passe quelque chose à Bad Seeds, et ensuite, pour circuler et aller amener le public à la passerelle, on s'est dit que ce serait bien de le faire masquer sous forme de déambulation un peu mystique.
Il y en aurait combien alors des personnages?
Ça dépend du nombre de bénévoles. Voilà.
Et ça ne sera pas musical, il n'y aura pas forcément un accompagnement sonore pour le coup.
A priori non, peut-être que j'emmènerai un gong.
Bah oui,
une
idée.
Un gong, c'est toujours utile.
Oui, tout à fait. Et vous avez donc, il y a d'autres artistes visuels qui sont programmés d'ailleurs
Il y a le ciné-concert de Anne Bruni et MacLeod. C'est un concert jeune public, où il y a une dimension évidemment musicale, mais aussi une dimension art plastique. Ils ont créé un livre à la destination du jeune public, tous les deux. Elle est plutôt sur la fabrication d'images et lui sur la musique. Alors, je ne connais pas bien le travail d'Anne Bruni. On va découvrir aussi, nous on découvre aussi des choses au festival.
Oui, c'est le but quand même.
C'est très beau, mais on connaît par contre très bien MacLeod, puisqu'il est déjà venu plusieurs fois sous différentes incarnations au festival. C'est une grande figure surréaliste, excentrique, un Américain exilé en Belgique depuis quelques années, et un personnage absolument invisible complètement. Quoi.
Ça existe encore les surréalistes alors ?
Ça existe encore,
ouais.
Il y en a.
Vous en avez trouvé,
il y en a.
C'est bien. Et d'ailleurs, ça me fait penser, comme vous parliez des enfants, là, vous proposez aussi de l'action culturelle, des ateliers en amont du festival, c'est ça où,
On s'est toujours intéressé beaucoup à ça. Donc là, cette année, il y a tout ce qu'on appelle les fabriques invisibles. Ce sont des séances de création participative qui ont lieu toujours en amont du festival. Et en l'occurrence, cette année, c'est Manuel Grotesque et Florian Stéphan, qui sont deux individus, deux énergumènes, qui ont créé un atelier de création plastique et de chansons. Ça s'appelle les baroudeurs de la chansonnette. C'est des personnages hautement surréalistes aussi.
Et qu'est-ce qu'ils ont proposé aux enfants alors
Il s'agit de créer des chansons avec un principe de création express. Et si vous ne connaissez pas le parcours de Manuel Grotesque, c'est un personnage qui vit à Brest et qui a déjà réalisé un nombre considérable d'albums, toujours frappé d'une espèce de folie. Et donc il y a aussi toute une dimension plastique, création d'images, de clips avec Florian Stéphan. Donc c'est une création complète, quoi.
Très bien. Donc il y a deux comparses avec qui vous travaillez. Je pense qu'ils sont importants, notamment dans la programmation. Le Studio Fantôme, déjà, qu'est-ce que c'est ?
Le Studio Fantôme, c'est un collectif d'artistes basé à Brest. Enfin, en gros, ce sont tous les artistes avec qui moi j'ai eu l'occasion de travailler depuis quelques années. Et qui sont. Alors, le Studio Fantôme, c'est une entité qui fabrique des spectacles, qui crée des spectacles et qui les diffuse. Spectacles pour les enfants, pour les pas-enfants, enfin pour tout le monde. Et donc, effectivement, c'est la même structure qui gère le Studio Fantôme et le Festival Invisible.
Mmh. Et c'est eux qui vous aident aussi à repérer, c'est ça, je suppose.
Ça fait partie de l'ensemble de l'association.
Ouais, parce que quelle est la part d'ailleurs des artistes, je ne vais pas compter, des artistes qui viennent de très loin, des artistes qui viennent de vers chez nous, on va dire.
Cette année, la particularité, c'est qu'on a joué quand même la sécurité, donc on est sur des artistes qui sont à portée de train ou de voiture, mais il n'y a pas d'Américains, par exemple, parce que quand on a construit la première programmation, on était dans une espèce d'incertitude par rapport aux avions. Mais d'habitude, il y a toujours un peu d'Américains, un peu d'Anglais, un peu de gens qui viennent de l'Est aussi. On a eu des Russes, des Biélorusses, des Tchèques, etc. Cette année, on a des Belges, des Anglais et des Français, et même certains qui viennent de Brest Métropole Océane.
Oh dingue.
Voilà.
Enfin, y a quand même un Australien.
Australien qui habite à Nantes, voilà.
C'est ça, mais c'est comme ça qu'on fait. Et sinon, vous travaillez aussi avec le label L'Église de la Petite Folie. Alors ça, c'est qui ça ?
Ça, c'est une maison de disques basée à Brest. En fait, historiquement, la première chose qu'on a créée, c'est l'église de la Petite Folie, qui est pour sortir des disques, tout simplement. Puis le festival Invisible, qui est un festival. Et ensuite, le studio Fantôme, qui est une usine à fabriquer une fabrique à spectacle.
Ouais,
c'est un triangle, en fait, qui fonctionne en interconnexion, en gros, quoi.
On dit un écosystème.
C'est un écosystème, oui, oui. Voilà, l'église de la Petite Folie, c'est pas la même association. Enfin, je vous raconte pas les détails.
Bien sûr, je vois.
Mais voilà.
D'accord. Et les gens qui viennent au festival, enfin, je suppose qu'à force vous les connaissez quand même, parce que c'est depuis 2006. Qui sait ? Est-ce que c'est toujours les mêmes ? Est-ce que
le public, non. Le phénomène qu'on observe, c'est dès le départ, on a fait le pari de la curiosité. Donc forcément, les premières années ont été un peu difficiles parce que quand vous programmez des groupes dont les gens ne connaissent pas, ne savent pas qui c'est, forcément, au début, vous avez du mal à susciter la curiosité. Mais depuis quelques années, le pari est gagné puisque le festival est complet tous les ans. Et donc, il y a effectivement des gens qui reviennent, des habitués qu'on connaît. On connaît même des fois par leur prénom, forcément, avec le temps. Mais il y a toujours une proportion du public qui varie. C'est ça qui est aussi intéressant. Et ça touche tous les âges. Il y a des gens de tous les âges. Et c'est ça aussi, ça nous intéresse beaucoup. Et puis de toutes origines, quoi.
Oui, c'est la question que j'avais. Enfin, c'était pas ma question pour être honnête, c'était la question de mon collègue Pierre-Yves. Il disait, mais on dirait que les jeunes, en fait, ils s'intéressent vraiment massivement à tout ce qui est esthétique hip-hop et tout. Et puis finalement, le rock, c'est un peu un truc de vieux. Enfin, donc vous contredites.
Oui, je pense que c'est pas aussi simple que ça, mais cette année on a du hip-hop par exemple, nous.
Ah, hein, ça y est, vous y mettez aussi.
Mais on s'y est mis parce qu'on s'est intéressé aux artistes en question, et Chuller's Division en l'occurrence, qui est un groupe de hip-hop assez dévastateur. On a déjà fait un rappeur américain qui s'appelait Dalek il y a quelques années, on s'intéresse au hip-hop aussi. Je pense que les gens qui s'intéressent à la musique... vraiment autrement que sur un mode de consommation, je pense qu'ils sont ouverts à toutes sortes d'esthétiques, quoi. Il n'y a pas de frontière finalement entre le rock et le hip-hop, je pense pas tant que ça. Mmh. Au contraire, il y a plein de cas de fusion ou de proximité entre ces esthétiques-là.
Et donc les jeunes curieux, ça existe toujours alors ?
Ah oui, il y en a plein. Il y en a plein.
C'est rassurant. Comment est-ce que vous voyez justement l'avenir de la création musicale, culturelle, enfin surtout notamment pour en vivre. Enfin, est-ce que ces artistes, ils arrivent à en vivre concrètement, parce que c'est quand même un peu important.
Bah, c'est variable. Hein. Il y en a qui en vivent, d'autres qui ont une autre activité à côté. Ça dépend des artistes.
Est-ce qu'on pourra encore vivre de la musique
dans
quelques années, quoi.
Je pense qu'on peut vivre de la musique, mais c'est évidemment pas les mêmes paramètres qu'avant. Et il faut souvent, ce qu'on dit maintenant, c'est qu'il faut multiplier les projets, les collaborations, et il y a beaucoup de phénomènes comme ça, de ramifications, quoi, dans les parcours des uns et des autres, parce que on vit rarement sur une seule proposition, quoi.
Voilà. Et c'est quand même plutôt la scène qui fait vivre ou pas ?
Bah, c'est-à-dire que les ventes de disques, c'est plus ça du tout, quoi. Ça, c'est certain. Il y a eu un effondrement de l'industrie du disque. Et donc, ce qui fait vivre les artistes, effectivement, c'est la scène, c'est parfois l'édition, c'est-à-dire le placement de musique pour des pubs, à l'audiovisuel, mais ça c'est encore un autre monde, un autre univers. Et effectivement, oui, la scène, bien sûr. Ouais. Mm. Et puis peut-être inventer des nouvelles choses.
Ouais.
Parce que finalement, quand ça, c'est comme ça qu'on trouve toujours, quand on cherche un chemin, on le trouve, quoi. Mais c'est vrai qu'on vit une période un peu de bouleversement, donc les choses sont moins tracées qu'avant, quoi.
Mm. Ouais, donc vous n'êtes pas inquiet pour l'originalité, l'avenir de la créativité musicale, quoi. Enfin,
s'il y a une chose pour laquelle je suis pas inquiet, c'est pour la créativité, parce que on vit une période de grande ébullition et de grande créativité, et qui est aussi favorisée par la démocratisation des moyens d'enregistrement. Alors évidemment, il y a beaucoup de choses, peut-être parfois des choses plus ou moins intéressantes, ça dépend. Mais globalement, quand même, je trouve que c'est ultra positif que quelqu'un dans sa chambre, quelque part perdu au fond de... qui n'a aucune connexion avec le milieu de la musique, peut créer et peut enregistrer des choses. C'est de là que vient l'énergie créatrice, quoi.
Et être diffusé et être entendu.
Et être diffusé et être entendu, oui.
Et est-ce que le Festival Invisible a fait des petits, enfin ailleurs, est-ce que vous en connaissez des équivalents dans d'autres villes ?
Bah, je sais pas si non, je pense pas que ce soit nous qui avons fait des petits, mais il y a des festivals comme BB Mix par exemple à côté de Paris qui sont nos cousins, quoi. On va dire, on est en contact, on discute, on essaie des fois d'imaginer des artistes qui pourrait venir à VIP, puis à BBMX, etc. Il y avait le Soy Festival à Nantes, me semble-t-il. Donc il y a un foisonnement de choses underground qui existent aussi, y compris en Bretagne, dans les Monts d'Arrée, l'association Insomniac, par exemple, avec qui on est en contact, qui a fait beaucoup de propositions underground de très haute qualité, quoi, ouais. Sur le territoire du Crazy Braise. Il y a beaucoup de choses en fait qui se passent.
Donc malgré la crise et toutes les vicissitudes qu'il y a eu, les gens sont quand même aussi d'accord de créer des festivals, enfin des événements quoi.
Ben on va voir comment, parce que là on en est à peine sorti en l'occurrence, mais oui je pense que de toute façon il y aura toujours des gens pour faire de la musique, et toujours des gens pour en écouter, et toujours des gens pour avoir le courage de monter un concert sauvage dans un hangar quelque part. Voilà, c'est heureusement.
Ouais. Ouais. Bon, ben Arnaud Le Goëfleck, on vous remercie d'organiser ce festival sauvage, enfin, on va l'appeler comme ça, qui commence demain, c'est jusqu'à samedi soir inclus à Brest. Il y a encore des places quand même ou...
Il y a encore des places, mais je ne vous cacherai pas qu'il y aura sûrement à un moment peut-être des gens qui resteront dehors parce que on est dans une espèce d'incertitude, on ne sait pas dans quelle mesure les jauges vont bouger ou pas, vous savez, il y a une espèce de flou en ce moment.
Oui, oui.
Mais et puis on sait que traditionnellement en début de soirée le festival est plein, donc je sais pas pour pousser à l'achat des places, mais je pense qu'il vaut mieux jouer la sécurité et se la procurer un petit peu avant.
D'accord, merci.